L'air de la vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous.
C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, écoutez l'heure de la vérité. Recevez tous mes sincères et chaleureuses salutations dans le magnifique nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur, le pasteur Rodrigue Genji. Et comme d'habitude, cette émission se déroule toujours sous l'œil très très attentif et très très vigilant de son excellence, sa majesté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, l'incomparable, toujours imité mais jamais égalé, l'admirable conseiller, le Seigneur Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Comme promis, par la grâce de Dieu, je suis encore là pour m'entretenir avec vous. Oui, au travers de la sainte parole du Dieu vivant. Et nous allons continuer sur la même lancée. Un petit rappel, depuis un certain temps, nous avons abordé une série d'enseignements concernant les fausses doctrines. Oui, par la grâce de Dieu, beaucoup de choses ont été déjà dites concernant les fausses doctrines, ce que les hommes pratiquent, enseignent, défendent et ce que la Bible enseigne exactement. Et nous sommes en train de parler des dîmes et des offrandes. Et je me suis entretenu avec vous longuement sur les dîmes pour vous montrer que la dîme ne doit plus être prêchée dans la Nouvelle Alliance car c'était une loi juive. Par contre, nous avons vu à la lumière des Saintes Écritures que la Bible parle dans le Nouveau Testament des offrandes. Le don joyeux, la libéralité, le donner. Il y a tellement de versets qui nous encouragent dans ce sens. Et nous allons continuer. Et avant de continuer, je vais encore faire le résumé de tout ce que nous avons vu. Parce que j'estime que c'est un sujet très très intéressant. On a l'habitude de dire que l'argent c'est le nerf de la guerre. Et l'esprit de maman s'étant introduit dans la chrétienté, parfois on accorde une importance démesurée à l'argent dans les milieux religieux, dans les milieux chrétiens. Et déjà, la dernière fois, nous avons vu les actions de grâce. Nous avons vu que dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, lorsque la Bible parle des actions de grâce, qui vient du mot charis, qui veut dire tout simplement remerciement, ça n'a absolument rien à voir avec les dons matériels ou de l'argent. Et aujourd'hui, en général, lorsqu'on parle d'action de grâce, tout tourne toujours autour des biens matériels ou de l'argent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais répondre à cet auditeur qui avait envoyé ce message et qui disait, par rapport à ceux qui sont morts, que lorsqu'on organise des messes d'action de grâce, c'est pour dire merci à Dieu d'avoir accepté cette personne au paradis. Et en général, ce n'est pas toujours cela. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que cette personne qui est morte est au paradis? S'il est au paradis, tant mieux, mais on n'a pas besoin de célébrer une messe par rapport à cela. Si une personne est morte en Christ, dans le Seigneur, il est au paradis, tant mieux et gloire à Dieu. Mais en général, même lorsqu'on organise les messes dites d'action de grâce, tout finit toujours par tourner autour de l'argent. Si on invite un pasteur ou un prêtre, tout va toujours finir autour de l'argent, autour des biens matériels. Ce qui est vraiment triste, parce que la dernière fois, je vous avais dit que vous pouvez rendre grâce à Dieu lorsque vous mangez. Lui dire merci, sans forcément lui donner de l'argent ou un bien matériel. Et je vous encourage une fois de plus à avoir un stylo et une feuille pour noter tous ces versets bibliques et prendre votre temps de les vérifier. Particulièrement concernant les actions de grâce. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 30 et 31 qui nous dit qu'on peut rendre grâce à Dieu lorsqu'on mange. La Bible nous parle aussi dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 12, lui le verset 12 particulièrement. Lorsque certains chrétiens ont reçu les dons, ils ont rendu grâce à Dieu. Et la Bible nous demande également de rendre grâce à Dieu dans nos prières. Et la Bible nous dit aussi que nous pouvons offrir le fruit de nos lèvres comme un sacrifice à Dieu. Oui, en célébrant son nom et en le louant, en l'adorant. Dieu agrée également cela comme étant un très grand sacrifice, le sacrifice de nos lèvres. Nous pouvons lire cela dans Hébreux chapitre 13, le verset 15. Et aussi par rapport à la prière d'action de grâce, nous pouvons lire 1 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset au verset 2. La dernière fois, nous avons lu tous ces versets. C'est juste un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, pour ceux qui n'avaient pas relevé ces versets. Nous avons également vu la dernière fois que les serviteurs de Dieu pouvaient être soutenus. Ça pouvait être matériel ou financièrement. Oui, matériellement ou financièrement, les serviteurs de Dieu pouvaient être soutenus. Mais il n'y avait pas de manipulation et ce n'était pas non plus leur préoccupation première. Nous avons par exemple vu que Jésus lui-même a été soutenu. Nous avons lu cela dans Luc chapitre 8. Oui, l'évangile de Luc chapitre 8, les trois premiers versets nous montre clairement que Jésus-Christ a été soutenu. Pourtant, Jésus n'a pas manipulé les gens. Jésus n'a pas trop parlé de ça. Mais n'a empêché quand même que les gens se sont souvenus de lui en le soutenant de leurs biens. Nous avons vu également que l'apôtre Paul a été soutenu à plusieurs reprises durant son ministère. Et pourtant, il répétait que il ne recherche pas les dons. Oui, il ne recherche pas les dons. Parfois, l'apôtre Paul recevait les dons pour utiliser ces dons en retour en faveur des autres. Parce que ce qui importait pour lui, ce n'était pas recevoir les dons et surtout amasser ses dons dans des banques. Alors qu'autour de lui, il y avait les gens qui étaient dans le besoin. Et nous avons vu également plusieurs serviteurs de Dieu qui avaient été soutenus. Nous vont lire dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 9, Tite chapitre 3, les versets 13 et 14, et 3 Jean, à partir du verset 5 au verset 8, oui, où l'apôtre Jean encourage à soutenir ceux qui prêchent la vérité afin d'être aussi participants à la propagation de la vérité. Et Nous avons également vu que Jésus a enseigné que le donner devait se faire humblement et secrètement. Ce qui est exactement le contraire de ce que nous voyons dans beaucoup de milieux religieux, où on manipule les gens, où on organise même la concurrence de qui va donner plus que l'autre. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 6, à partir du premier verset au verset 4, où Jésus a dit que lorsque vous faites du tapage, lorsque vous donnez, le feu qu'on vous a vu, c'est déjà votre récompense. Il n'y aura plus du tout de récompense. Mais lorsque vous donnez humblement et secrètement, c'est Dieu qui voit. Et c'est lui qui se chargera de vous récompenser en retour. Et nous avons également vu que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est appelée beaucoup plus à gagner les âmes et non à gagner de l'argent. Oui, une assemblée biblique met tout en œuvre pour gagner les âmes pour le paradis et non gagner de l'argent. C'est pour cette raison qu'une assemblée biblique, une église biblique ne doit pas s'amasser de l'argent dans des banques, des millions, des milliards, alors que autour de nous, dans l'assemblée, il y a des orphelins, des veuves, des nécessiteux, mais que l'on les oublie tout en continuant à amasser d'énormes sommes dans des banques. Et nous avons également vu que dans le Nouveau Testament, les bénéficiaires des offrandes, c'était beaucoup plus les nécessiteux et non seulement les hommes de Dieu ou les pasteurs. Nous avons lu tellement de versets dans ce sens. Vu que les bénéficiaires des offrandes dans l'église primitive, c'était les nécessiteux. Lorsque les apôtres recevaient les dons, ils ne prenaient pas cela pour eux seuls, ils n'amassaient pas dans les banques, mais ils distribuaient à ceux qui étaient autour d'eux, à ceux qui étaient dans l'assemblée et qui étaient dans le besoin. Il y avait tellement de versets, et nous pouvons lire au moins une portion de Sainte Écriture. Tout cela, c'est un rappel, vous pouvez relever ces versets. Pour ceux qui n'ont pas relevé la dernière fois, nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32 au verset 37. 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du premier verset au verset 4. 2 Corinthiens 9, les versets 12 et 13. 1 Corinthiens, chapitre 16, à partir du premier verset au verset 4. Et 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 8. Et je vais lire pour nous tous. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32, où il est écrit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup d'efforts ce témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et ils le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. On faisait des distributions. Donc les apôtres, lorsqu'ils recevaient ces dons, ils ne s'amassaient pas ces dons pour eux seuls, ou bien dans des banques. Ça, c'est l'élan de générosité qui a animé les premiers chrétiens. Beaucoup vendaient carrément même les champs et les maisons. Il est vrai qu'il n'y avait aucune loi qui les obligeait à le faire, mais ils ont fait cela et ils apportaient le produit aux pieds des apôtres qui distribuaient tout simplement. Et nous pouvons aussi lire dans 2 Corinthiens chapitre 8, les 4 premiers versets, où il est écrit, 2 Corinthiens 8, à partir du premier verset au verset 4, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve de leur affliction. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Oui, les chrétiens de Macédoine qui voulait à tout prix donner pour soutenir les autres chrétiens qui étaient dans le besoin. Oui, et tous les autres versets vont aller dans le même sens. Les collectes, en général, c'était toujours en faveur des nécessiteux. Ce n'était pas tout simplement pour les pasteurs, les prêtres ou les serviteurs de Dieu. Non. Et je vais également essayer de rectifier certains versets qui sont mal interprétés. Nous sommes dans Galates chapitre 6, le verset 6. Oui, nous sommes dans Galates chapitre 6, le verset 6, où il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Oui, la parole de Dieu dit ici que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, c'est un verset que si l'on le sort de son contexte, beaucoup vont utiliser ce verset pour arnaquer les gens, pour appauvrir les gens sous prétexte que parce qu'ils enseignent, tous ceux qui les écoutent sont obligés de leur donner tous les biens. Déjà, quand la Bible dit de faire part de tous ses biens, ça ne veut pas seulement dire de l'argent. Ça veut dire que si vous avez des biens de quelque nature que ce soit, ça peut être des habits, des chaussures, la nourriture, le bois, si naturellement vous avez autour de vous un serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu et que vous voyez qu'il est dans ce besoin, vous pouvez l'aider en lui donnant un habit, une chaussure ou à manger. Mais ça ne veut pas dire que vous devez porter tous vos biens pour aller lui donner. Ou bien que vous devez lui donner seulement de l'argent. Comme tout tourne autour de l'argent de nos jours. Oui, à l'église en général, on parle toujours que de l'argent. Alors que dans la Bible, tout ne tournait pas seulement autour de l'argent. Ça pouvait être un don matériel. Ça pouvait être du bois. Et même les produits du champ. Parce que si on apporte même cela à l'assemblée, il y aura certainement un frère ou une sœur qui en a besoin. Parce que je tiens toujours à préciser que ce qu'on apporte à l'église, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Selon les Saintes Écritures, c'est aussi pour ceux qui peuvent être dans le besoin, particulièrement les orphelins, les veuves, et les, vraiment ceux qui sont vraiment démunis. Et dans ce même chapitre de Galates, chapitre 6, au verset 10, la Bible va continuer en disant ceci. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Donc la Bible encourage un chrétien non seulement à donner à celui qui l'enseigne, mais surtout envers tous, et surtout envers les frères. Donc nous voyons que ce n'est pas seulement celui qui enseigne qui doit récupérer les dons d'un frère ou d'une sœur. La Bible encourage également un enfant de Dieu non seulement à partager ce qu'il a avec un serviteur de Dieu qui est dans le besoin, mais pas seulement le serviteur de Dieu, mais envers tous, mais aussi surtout envers les frères et sœurs en Christ. Parce qu'on ne doit pas sortir un verset de son contexte. Lorsqu'on sort un verset de son contexte, ça devient tout simplement un prétexte. Et un autre verset mal interprété qui dit que le serviteur, ou bien plus exactement l'ouvrier, mérite son salaire. C'est vrai, Jésus a dit cela. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 10. Le verset 7, c'est vraiment de la bouche du Seigneur Jésus que cela est sorti, que l'ouvrier mérite son salaire. Luc 17, que je peux lire pour nous tous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Si nous regardons ces versets de très près, lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il les demande expressément de ne pas prendre de l'argent. Oui, il les demande expressément de ne pas prendre de l'argent, d'aller. Lorsqu'on va les recevoir dans une maison, tout ce qu'on va leur donner, qu'ils mangent et qu'ils boivent. On voit déjà que le Seigneur Jésus-Christ ici assure à ses disciples qu'ils auront toujours à manger et à boire. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'était pas en train de dit que parce qu'ils vont partir prêcher l'évangile, on va les bâtir des grosses maisons, on va les acheter des grosses voitures. Non, mangeant et buvant tout ce qu'on vous donnera. Voilà ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Si on reste dans le contexte, quand Jésus dit que l'ouvrier mérite son salaire, et pourtant il s'adresse ici à ses apôtres, donc ses apôtres étaient les ouvriers et non des patrons. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu veulent se comporter comme des patrons, alors qu'ils sont plutôt des ouvriers. Et le grand patron, c'est Jésus lui-même. Donc c'est Jésus qui paye ses ouvriers, qui récompense ses ouvriers. Pour dire qu'en réalité, un vrai serviteur de Dieu s'attend avant tout à son maître qu'il a engagé, à savoir le Seigneur Jésus. Vous dites que normalement un vrai serviteur de Dieu ne doit pas se plaindre que l'on ne s'occupe pas de lui chaque fois. Il ne doit pas s'acharner sur les chrétiens, comme si ce sont les chrétiens qui l'ont engagé. Non, il doit s'acharner sur cette personne qui l'a engagé, s'il a été vraiment engagé. Et je suis sûr qu'un vrai serviteur de Dieu qui a été vraiment engagé par le Seigneur, il n'a pas besoin de se plaindre que les gens ne s'occupent pas de lui. Parce que le Seigneur ne peut pas abandonner ceux-là qui vivent par la foi et qui font correctement leur travail en tant que ses serviteurs, ses ouvriers. D'ailleurs, si nous restons toujours dans cet évangile de Luc, écoutons très bien ce que Jésus va dire à ses disciples, toujours dans l'évangile de Luc. Lorsqu'ils vont rentrer, Jésus va leur poser la question. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans argent, avez-vous manqué de quelque chose? Et les disciples vont répondre, de rien. Oui, de rien. En réalité, le Seigneur Jésus-Christ avait pourvu à tous leurs besoins durant les voyages. Nous sommes dans l'évangile de Luc chapitre 22 au verset 35 où il est écrit, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. Donc en vérité, un vrai serviteur de Dieu n'a pas besoin d'arnaquer les gens, n'a pas besoin de manipuler les gens, n'a pas besoin de se soucier pour sa vie. Si c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui l'a engagé, qui l'a enrôlé, le Seigneur Jésus-Christ lui-même se chargera de pouvoir à ses besoins. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même se chargera de toucher le cœur des uns et des autres afin qu'il puisse l'aider à un moment donné lorsqu'il se retrouve dans le besoin. Et j'étais également à souligner que la Bible n'a pas défendu aux serviteurs de Dieu de travailler. Oui, la Bible n'a pas défendu aux pasteurs, évangélistes et autres d'avoir un métier séculier qui peut leur permettre de gagner de quoi vivre tout en servant Dieu. L'apôtre Paul d'ailleurs a dû apprendre un métier, à savoir fabriquer des tentes. Donc il est arrivé à plusieurs reprises que l'apôtre Paul travaillait de ses propres mains. Et les tentes qu'il fabriquait, il les vendait. Il savait le produit de cela qu'il pouvait souvenir à ses besoins. Et il ne comptait pas exclusivement sur les gens pour vivre. Et le Seigneur Jésus-Christ peut également bénir ce qu'un serviteur de Dieu fait, de telle sorte que ce serviteur de Dieu ne dépende pas exclusivement des gens pour vivre et pour servir Dieu. Parce que c'est un très grand danger lorsqu'on dépend exclusivement des gens. Oui, la venue d'un serviteur de Dieu ne doit pas dépendre de la charité des uns et des autres. Donc, pour dire que ce n'est pas un péché pour un serviteur de Dieu d'avoir un travail séculier, bien au contraire, la Bible encourage même cela. Moi, particulièrement, qui vous parle en tant que pasteur, j'ai un travail séculier. Et au travers de ce travail, Dieu me bénit de telle sorte que je n'ai pas besoin de dépendre exclusivement des gens pour vivre. D'ailleurs, Dieu bénit abondamment le travail de ses serviteurs. J'ai dit ici à plusieurs reprises que un vrai serviteur de Dieu ne doit pas arnaquer les chrétiens pour se bâtir des villas ou pour s'acheter des grosses voitures. N'empêche, un serviteur de Dieu peut avoir une villa, une grosse voiture, si c'est le fruit de son travail. Oui, moi qui vous parle, j'ai une maison, j'ai une voiture, mais c'est le fruit de mon travail, je n'arnaque personne. Aucun chrétien ne peut dire que j'ai pris son argent pour bâtir ma maison ou pour acheter ma voiture. Parce que ce que j'ai fait comme travail, en dehors du fait que je prêche l'évangile et que j'essaie, Dieu bénit cela. Ça, ce sont des exemples pour montrer comment Dieu peut bénir un serviteur de Dieu sans qu'il ne soit un mendiant, sans qu'il ne soit un braqueur ou un arnaqueur. Très chers auditeurs, très chères auditrices, nous sommes toujours en train de parler des dîmes et des offrandes selon le Nouveau Testament, et nous sommes particulièrement dans les offrandes, la libéralité et le don joyeux. Et nous voyons également concernant les fêtes religieuses que c'est toujours un moyen que les systèmes religieux ont mis en place pour pouvoir dépouiller les chrétiens. Parfois on va dans l'Ancien Testament, on sort certaines fêtes religieuses qui concernaient la nation juive. Et on sort la partie qui devait amener les gens à tout prix à sortir quelque chose de leur poche. Par exemple, les fêtes des récoltes. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on est parti sortir dans l'Ancien Testament qui concernait la nation juive. Parfois, on demande aux gens d'amener la fête des récoltes alors que ce n'est même pas la période des fêtes des récoltes. Vous voyez qu'il y a de l'arnaque dedans. Comment est-ce que on peut demander aux gens de venir avec la fête des récoltes alors que ce n'est même pas la période des récoltes? Parfois, quelqu'un n'a même pas un champ, mais on lui dit quand même d'amener quelque chose pour célébrer la fête des récoltes. Je disais, il y a la dernière fois qu'on ne doit pas aller dans l'Ancien Testament enlever certaines choses et obliger les chrétiens à appliquer cela bêtement. Nous voyons dans le Nouveau Testament que la Bible ne parle pas de ces choses, mais pourtant encourage beaucoup les chrétiens à donner. Mais comment on a résolu dans son cœur, sans contrainte, sans tristesse, selon sa prospérité. Très chers auditeurs, très chers auditrices, vous écoutez l'aide de la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Parfois, on demande également aux gens d'amener les enfants pour les consacrer au Seigneur. Et il y a toujours quelque chose derrière. Oui, les parents doivent certainement apporter quelque chose, parce qu'ils sont en train d'amener leurs enfants pour qu'on le consacre au Seigneur. Tout ça, c'était la loi. Oui, c'était la loi. Et nous ne sommes plus sous la loi dans ce sens-là. Et je tiens en passant à dire que si quelqu'un sait qu'il est vraiment un chrétien, né de Dieu, né de nouveau, c'est que cette personne est également un sacrificateur. Oui, écoutez-moi très bien. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu, en tant que sacrificateur, parce que la Bible dit que tous les chrétiens sont devenus des prêtres et des sacrificateurs. Si vous êtes consacré à Dieu, vous aussi vous pouvez consacrer vos enfants à Dieu. Donc le fait que vous pensiez qu'il n'y a que le pasteur ou le prêtre pour consacrer vos enfants montre tout simplement que vous-même, vous ignorez même qui vous êtes. Ou bien que vous n'êtes pas du tout consacré à Dieu. Si moi je suis consacré à Dieu, tout ce qui me concerne est déjà consacré. Tous mes biens sont déjà consacrés. Tous mes enfants sont déjà consacrés. Les démons, le diable, les sorciers peuvent se lever comme ils veulent, c'est leur problème. Tout ce que je touche est consacré. Parce que moi-même je suis déjà consacré à Dieu. Que celui qui a vraiment des oreilles pour entendre, entende. Même si nous restons dans le cas de Jésus qui a été consacré, et nous voyons que Jésus a tout accompli à la croix en disant tout est accompli. Nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices. C'est cette raison que, étant sous la nouvelle alliance, nous n'avons plus besoin de rentrer dans la loi pour pratiquer certaines choses. Et en général, lorsqu'on parle des enfants qu'on doit consacrer au Seigneur, on dit qu'il faut donner de l'argent pour cela. Alors que même lorsqu'il fallait le faire dans l'ancienne alliance, selon la loi, on ne devait pas donner de l'argent. Très chers auditeurs, très chères auditrices, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vous encourage à rester tout simplement à l'écoute. Vous écoutez l'heure de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, je vous ai dit qu'en tant que sacrificateur, vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, le prêtre, adorait Dieu, priait et consacrait également. Et si tous les chrétiens sont des sacrificateurs dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ qui nous a rachetés, cela est écrit clairement dans Apocalypse chapitre 1, les versets 5 et 6. Et Apocalypse chapitre 5, les versets 9 et 10. Alors si dans l'Ancien Testament, les prêtres sacrificateurs, ou bien prêtres ou sacrificateurs, parce que c'est la même chose, pouvaient prier, adorer Dieu, consacrer, bien présenter au Seigneur, alors tous les chrétiens peuvent également le faire. Parce que si tu es vraiment consacré à Dieu, il n'y a pas de raison que tu pries et que Dieu ne t'écoute pas. Il n'y a aucune raison que tu pries et que Dieu ne t'écoute pas si tu es vraiment consacré à lui. Il faut juste te réveiller de ton sommeil et savoir qu'en Christ, tu n'es plus n'importe qui. C'est un merveilleux privilège qu'il faut saisir. J'ai l'habitude de dire la vérité qui divise et qui dérange. En vérité, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, la vérité biblique a toujours divisé et dérangé. Mais avant d'entrer en profondeur sur la division qu'apporte la vérité, je vais lire ce verset d'Hébreux chapitre 10, verset 25 que l'on brandit le plus souvent aux gens pour les maintenir en captivité dans les systèmes religieux où les gens sont fatigués, où les gens ne trouvent plus vraiment leur compte. On les brandit ce verset d'Hébreux chapitre 10, verset 25 qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Oui. Dans ces versets où la Bible nous demande de ne pas abandonner notre assemblée, le mot « assemblée » qui est ici vient du mot grec « episunagoge » qui en réalité n'a rien à voir avec ni une religion, ni un système religieux. Oui, ce mot « assemblée » n'a rien à voir avec une religion, ni un système religieux. Et pour vous faire comprendre clairement ce que je suis en train de dire, nous allons lire certains versets de la Bible où le même mot est employé. Et ça n'a rien à voir avec ni une religion, ni un système religieux. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24, le verset 31, notez Matthieu chapitre 24, le verset 31, c'est de la bouche même du Seigneur Jésus que nous pouvons lire cela. Il dit ceci, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » C'est le même mot. Le même mot. Ils rassembleront ses élus. Donc le mot assemblée, c'est notre rassemblement avec le Seigneur lorsqu'il viendra. Et dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 13, le verset 27, notez également ce verset de Marc, chapitre 13, nous sommes au verset 27, où il est écrit, c'est toujours Jésus qui parle. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Il rassemblera les élus. Donc, il y a un grand rassemblement qui attend tous les chrétiens. Un jour, à la dernière trompe, le son de la dernière trompette, La Bible nous dit que les élus seront transformés en un clin d'œil. Ils vont aller dans les airs à la rencontre du Seigneur. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 25, la Bible encourage les chrétiens ici à avoir toujours en vue qu'à tout moment le Seigneur Jésus-Christ peut venir. Et s'ils savent que le Seigneur Jésus-Christ doit venir, ils doivent tout faire pour être prêts, afin de ne pas manquer ce grand rassemblement dans les airs avec le Seigneur Jésus, ce grand rassemblement du dernier jour lorsque Jésus viendra. D'ailleurs, c'est ce que la fin du verset va dire. D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, s'approcher, donc ce jour du Seigneur s'approche. Donc, la Bible n'a pas demandé à quelqu'un de demeurer dans un système religieux si cette personne se rend compte que ce système le trompe ou l'égare ou ne l'empêche de s'épanouir spirituellement. La Bible n'a dit cela nulle part. Bien au contraire, la Bible nous encourage à ne pas abandonner la foi. Et la foi, ça n'a rien à voir avec un système religieux. Vous pouvez être dans un système religieux alors que vous n'êtes plus du tout dans la foi. Et vous pouvez être hors d'un système religieux et étant quelqu'un plein de foi. Et déjà, je vous disais à plusieurs reprises que même Jésus en personne n'obligeait pas les gens à le suivre. Bien au contraire, chaque fois quand les gens le suivaient, il les mettait toujours en garde, il les mettait face à leurs responsabilités. Et parfois, les gens, estimant que ses enseignements étaient trop durs, beaucoup l'abandonnaient. Mais Jésus ne les forçait pas à rester à tout prix. La porte était grandement ouverte pour entrer ou pour sortir. Donc l'homme doit être libre d'entrer dans un système religieux et libre d'en sortir. Ce n'est pas normal que vous soyez libre d'entrer et que vous ne soyez plus libre de sortir d'un système religieux qui vous égare ou qui vous éloigne de Dieu, ou bien qui vous enseigne des faussetés. Pouvons relever l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 60 au verset 68, qui relate l'histoire dont je viens de vous parler tout à l'heure, où Jésus ne forçait pas les gens à le suivre. Oui, l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 60, où il est décrit, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Verset 65, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternel. Nous voyons que Jésus ne forçait pas les gens à le suivre. Pourquoi est-ce qu'on doit vous forcer à demeurer dans un système religieux? Si Jésus lui-même, en tant que Dieu, n'a forcé personne à le suivre, bien au contraire, il laissait les gens s'en aller lorsqu'il le voulait. Et dans Apocalypse chapitre 17, à partir du premier verset au verset 6, et Apocalypse chapitre 18, les quatre premiers versets que vous pouvez relever nous encouragent à sortir de Babylone. Babylone ici qui représente tout simplement l'église apostate, cette église qui a abandonné la foi, qui a l'apparence de la piété, mais qui en réalité ne pratique pas la parole de Dieu. La Bible encourage les gens à sortir de cette église apostate. Oui, Apocalypse chapitre 17, les six premiers versets, ou Apocalypse chapitre 18, les quatre premiers versets. J'ai déjà eu à lire ces versets et je peux encore les relire une fois de plus. Particulièrement le chapitre 18, à partir du verset 4, où il est écrit, « J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, afin que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ encourage son peuple à sortir de Babylone. Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 39, Hébreux chapitre 10, le verset 39, nous pouvons lire ceci. Relevez et après vérifiez. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais pour sauver leur âme. Donc parfois, il faut vous retirer pour sauver votre âme. Oui, à un moment donné, l'homme sera obligé de faire un choix douloureux, abandonner son système religieux pour sauver son âme. Maintenant, je vais vous montrer à la lumière des Saintes Écritures que la vérité biblique a toujours divisé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit les Saintes Écritures. Si nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 12, à partir du verset 49 au verset 53, que vous pouvez relever une fois de plus, l'évangile de Luc, chapitre 12, oui, à partir du verset 49 au verset 53. Je peux lire pour nous tous. Jésus dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Verset 51, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, cinq dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » C'est Jésus qui dit qu'il est venu également pour apporter la division. Arrêtez, la vérité divise. À un moment donné, si vous voulez marcher selon la vérité biblique, ne vous y trompez pas, il y aura division. Les gens qui ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu vont se lever. Il y aura conflit. Beaucoup de gens vont se diviser à cause de la parole de Dieu, à cause de la vérité. Parce que vous ne pouvez pas pratiquer la vérité et qu'il n'y ait pas de division. Parce qu'il y a toujours les ennemis de la vérité partout. Et ce sont ces ennemis qui se lèvent. Et lorsqu'ils se lèvent, il y aura forcément division. Et dans Genèse, chapitre 1er, rentrons dans le livre du commencement. Oui, au commencement de toutes choses. Chapitre 1er de Genèse, les versets 3 et 4. Vous pouvez relever ces versets, après prendre votre temps de les lire et les relire. Il est écrit ceci dans Genèse chapitre 1, les versets 3 et 4. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Depuis le commencement, Dieu a fait la séparation entre la lumière et les ténèbres. Donc la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Le mensonge et la vérité ne peuvent pas marcher ensemble. Dieu et Satan ne peuvent pas marcher ensemble. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Soit c'est la vérité, soit c'est le mensonge. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Vous deviez choisir un camp. Dieu a même dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille, choisis la vie afin que tu vives. Oui. Mais le diable, par contre, c'est le champion du mélange. Un peu de vérité, un peu de mensonge. Et rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, Satan a utilisé le serpent. Et vous savez comment le serpent marche? Le serpent ne marche jamais droit. Le serpent marche en zigzagant. Oui, en zigzagant. Cela symbolise un peu de vérité, un peu de mensonge. Parce que le diable sait que s'il ne parle pas un peu de vérité, les gens vont détecter facilement qu'il est là. C'est pour cette raison qu'il va prêcher un peu de vérité pour attirer les gens. Dans tous les systèmes religieux qui ne prêchent pas la vérité, il y a quand même un peu de vérité. Et c'est au travers de cette petite vérité qu'il maintient les gens en captivité. Parce que le diable sait que s'il prêche uniquement le mensonge, les gens vont découvrir très vite que c'est le mensonge, qu'ils ne viennent pas de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faut connaître les Saintes Écritures pour discerner les œuvres de Satan, pour discerner le mensonge de Satan. Et je vais vous parler de la vipère. Les études ont montré que dans le venin de la vipère, il y a 75% de vitamines qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme de l'homme. Notez très bien, 75% de vitamines. Et il n'y a que 25% de poisons mortels. Mais n'empêche que lorsque la vipère te mord, tu vas mourir. Malgré les 75% de vitamines. Le 25% de venin mortel, de poisons mortels, sont plus puissants que les 75% de vitamines. Pour dire que il suffit seulement d'un petit mensonge et le diable vous tient. Parce qu'il est le père du mensonge. Que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute. Je vous encourage tout simplement à garder l'écoute. Vous écoutez l'aide de la vérité, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Je vais répondre à ce message qui me demande de quelle loi s'agit-il, quelle loi. J'ai eu à parler beaucoup concernant les lois. Et brièvement, je vais résumer en disant dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs sortes de lois. Il y avait les lois cérémonielles. Et dans les lois cérémonielles, il y avait les lois liées au sacrifice d'animaux, les fêtes religieuses. Il y avait également les lois morales. Et les lois morales sont éternelles parce qu'elles sont imprimées dans le cœur de l'homme dès sa naissance. Par exemple, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Ce sont des lois éternelles. Avant même que la loi ne soit donnée à Moïse, ces lois ont toujours existé. Et c'est la marque de Dieu sur ses créatures. Lorsque tu fais le mal, toi-même tu es conscient que ce que tu fais n'est pas bien. Ce sont les lois morales. Il y avait également les lois sociales, c'est les lois civiles. Et comme toutes les nations sur cette terre ont des lois sociales et civiles, Israël en tant que nation avait également les lois sociales et civiles. Et on ne doit pas faire le mélange. C'est pour cette raison que, pour me faire comprendre par rapport à la préoccupation de cet auditeur ou cette auditrice, dans Luc chapitre 22, la Bible nous dit ceci à partir du verset 19. C'est Jésus qui dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. Soulignez très bien, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc Jésus-Christ a inauguré une nouvelle alliance qui n'avait rien à voir avec l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament. Et c'est pour cette raison que les lois ou bien la doctrine chrétienne doit être cherchée dans le Nouveau Testament et donc dans l'Ancien Testament, particulièrement dans les Épîtres, parce que l'Église n'a pas existé dans l'Ancien Testament. L'Église a existé que dans le Nouveau Testament. Même lorsque Jésus-Christ était sur la terre, l'Église n'existait pas encore. D'ailleurs, lorsqu'il va parler de l'Église, il va dire « Je bâtirai mon Église ». Donc, il a dit cela au futur. Et c'est dans les actes des apôtres, après la mort du Seigneur Jésus, la résurrection et la venue du Saint-Esprit, que l'Église va naître. Et c'est plus tard maintenant, à partir des Romains, que les épîtres vont venir maintenant avec les doctrines chrétiennes. C'est pour cette raison que, pour pouvoir pratiquer quelque chose sans courir le risque de se tromper, on n'a qu'à ouvrir le Nouveau Testament, particulièrement les Épîtres, parce que toutes les doctrines chrétiennes se trouvent que dans les Épîtres, où il y a les enseignements concernant tous les sujets. Oui, ça c'était pour résumer. Donc les bases doctrinales de tous les enseignements du chrétien se trouvent dans les Épîtres, parce que l'Église est née que dans le Nouveau Testament et non dans l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas considérer l'Ancien Testament, mais la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre, quand on dit l'ombre, ça veut dire qu'il y a la réalité. Et la réalité est dans le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament est venu confirmer l'Ancien Testament. Et je disais que lorsque j'ai l'habitude de dire que la vérité divise et dérange parfois beaucoup, à partir de ce moment, vous allez commencer à comprendre beaucoup de choses. Nous allons voir que l'Église est née dans la division et s'est formée dans la division. Parce que la vérité du Seigneur a toujours créé deux camps. Ceux qui sont pour la vérité et ceux qui ne sont pas pour la vérité. Ça, c'est une réalité indéniable, que l'on le veuille ou que l'on ne le veuille pas. Par exemple, dans Actes des Apôtres, juste après la naissance de l'Église dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Église est née dans Actes chapitre 2, après la venue du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4, cette fois-ci, à partir du premier verset, au verset 4, nous pouvons lire ceci. tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivant les sacrificateurs et le commandant du peuple. Et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient, le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les mirent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. Amen. Nous voyons, juste après la naissance du Seigneur, les problèmes ont commencé, les divisions ont commencé. Il y avait les gens qui travaillaient dans le temple, le commandant du temple, les Sadducéens, et les sacrificateurs, tous ceux-là qui étaient des religieux, qui prêchaient la parole de Dieu, mais qui ne prêchaient pas la vérité. Eux, ils ont mis la main sur les apôtres, ils les ont arrêtés, et ils ont intimidé les apôtres en les empêchant de prêcher la vérité, le Seigneur Jésus, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et ils les ont mis même en prison. Mais la Bible nous dit que, cependant, beaucoup de ceux qui avaient cru, ou bien beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole, crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. Et nous allons également voir avec Jésus que il n'était pas toujours en accord avec tout le monde. Oui, Jésus-Christ n'a pas toujours fait l'unanimité. Par exemple, dans l'évangile de Jean chapitre 7, à partir du verset 40 au verset 44. Vous pouvez noter une fois de plus l'évangile de Jean chapitre 7, à partir du verset 40 au verset 44, où je peux lire ceci pour nous tous. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 7, à partir du verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Verset 44. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Verset 43. Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Donc, les gens, même au temps de Jésus, se divisaient. Il y avait certains qui étaient pour lui, d'autres qui étaient contre lui. Ça ne manquera jamais. Et toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 10, cette fois-ci, à partir du verset 19. Oui, l'évangile de Jean, chapitre 10, à partir du verset 19. Au verset 21, il est écrit. Il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs. Verset 20, plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Donc nous voyons que Jésus, même en son temps, créait toujours la division. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Très chers Jésus-Christ, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer prochainement. Et nous allons voir à la lumière des Écritures que la vérité divise vraiment. Si vous êtes pour la vérité, ceux qui ne sont pas pour la vérité seront vos ennemis. Et forcément, il y aura division. Et que le nom du Seigneur seul soit béni pour ce merveilleux privilège qu'il nous a accordé de passer un peu de notre temps dans sa sainte parole. Une fois de plus, que le nom du Seigneur seul soit béni, que toute la gloire lui revienne, et surtout que sa bonne main soit sur vous tous. Et à la prochaine. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00 237 qui
qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NGENDJI. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.
Si le Seigneur Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Seigneur Jésus-Christ revient très 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 bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prête? Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. L'évangile de Jean chapitre 14, le verset 6. Et le Seigneur Jésus-Christ dit aussi, je suis la lumière du monde. Celui ou celle qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il ou elle aura la lumière de la vie. Qu'attendez-vous donc pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur?
Si vous cherchez le vrai bonheur et le salut en dehors du Seigneur Jésus-Christ, sachez que vous êtes mal barré. Vous êtes comme quelqu'un qui est en train de poursuivre le vent. Et il ne l'attrapera jamais.
Serviront le Seigneur qui nous a franchis. tout au long de notre vie.
Servirons l'éternel.